nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
On passe une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. Je vous suggère de vous munir d'un crayon et d'une grande feuille de papier. Nous allons faire une dictée, la fameuse dictée attribuée à Mérimée. Mais auparavant, cette dictée est-elle vraiment de lui ? L'a-t-il véritablement dictée un soir à ses amis ? Bien des questions autour de la dictée de Mérimée semblent rester sans réponse. Et pour y voir plus clair, nous allons nous adresser à un spécialiste de Mérimée, Pierre Pélissier, qui a publié une biographie de l'académicien, car je vous le rappelle, Prosper Mérimée, 1803-1870, était membre de deux académies, celle des inscriptions et belles-lettres et l'Académie française, et à son nom reste attachée la préservation des monuments historiques et la sauvegarde de bon nombre de monuments du patrimoine national. Mérimée, grand voyageur, grand séducteur, écrivain célèbre, on lui doit entre autres une œuvre restée mémorable, Carmen. Pierre Pélissier, bonjour.
Bonjour.
Je l'ai dit, vous avez rédigé une biographie de Mérimée et vous évoquez justement cette fameuse dictée. Mais ça n'est pas si simple. Alors véritablement, quels sont les documents, les sources qui permettraient de dire que cette dictée est attribuée à Mérimée, qu'elle est de lui, et celles qui permettent de dire qu'elle ne l'est pas ?
Je vais commencer par celle qui permettrait de dire qu'elle n'est pas de Mérimée.
C'est comme vous voulez.
J'ai trois sources que je cite dans le livre. J'ai Octave Feuillet, j'ai Albert de Mingy et j'ai Pauline de Metternich. Ce sont trois versions de cette dictée qui sont toutes les trois différentes. Deux de nos personnages la situent en 1868 et Pauline de Metternich ne donne pas de date. Feuillet la situe à Fontainebleau, Mingy la situe à Compiègne, Pauline de Metternich ne la situe pas. Octave Feuillet attribue la dictée, tout au moins l'expression orale de ces dictées au préfet du palais de Montbrun. Albert de Mingy ne cite personne pour faire cette dictée et seule Pauline de Metternich dit qu'elle est faite par Mérimée. Le lauréat change aussi. Pour Octave Feuillet, c'est la comtesse de Saucy-Parabère. Pour Albert de Mingy, c'est Metternich. Et Pauline de Metternich parle bien sûr évidemment de son mari. Alors, on arrive à une chose de très simple. Trois témoins. Deux dates différentes, deux lieux différents, deux personnages dictants et deux lauréats différents.
C'est pas très fiable, alors.
Ce n'est pas fiable du tout. En plus, ajoutons que le premier texte vraiment connu paraît en 1900 dans Le Monde moderne. Et ensuite, il y aura plusieurs versions de la dictée. Celle que je donne dans le livre est la plus courante, la plus connue. C'est une des versions. Donc, Octave Feuillet, lui, il va le plus loin, Tédrault, dans la précision. Il écrit à sa femme depuis Fontainebleau en juin 1868. Le seul inconvénient, c'est qu'en juin 68, Mérimée n'est pas à Fontainebleau. Il n'ira que du 27 juillet au 14 août.
Donc, il n'a pas pu dicter Donc, à Fontainebleau.
Il n'a pas pu dicter à Fontainebleau. Il n'était pas là. Il est absent dans la première citation que nous ayons de cette dictée. Albert de Mingy parle de 1868, mais sans plus de détails. Il parle de Compiègne et de Metternich. Mais il écrit ça dans ses souvenirs du Second Empire qu'il publie en 1889.
Oui, très largement.
C'est quand même
après,
tardif.
Oui.
Pauline de Metternich ne donne pas la date, ne donne pas l'endroit, cite Mérimée et le lauréat, son mari. Elle, c'est pire, elle écrit dans les années 1920, puisque ses mémoires paraissent en Autriche en 1922. Donc, on arrive à un problème. A-t-il joué un rôle quelconque, notre Mérimée, dans cette dictée ? Je suis, moi, obligé de vous dire que la version qui pourrait l'attribuer à Mérimée, je ne l'ai jamais trouvée. Je n'ai rien trouvé qui puisse dire « Mérimée a été mêlée à cette dictée ». Il n'en parle dans aucune de ses lettres, et vous savez qu'on en a retrouvé à peu près 5000, donc il faudrait vraiment qu'il y ait un petit trou dans sa correspondance pour changer les choses. Il n'était pas à Compiègne tout le temps. Il n'était notamment pas à Compiègne en 1868, pas plus qu'il n'était à Fontainebleau.
Vous dites Compiègne parce qu'on lui attribue, ou la légende en tout cas, dit que ça s'est passé là.
On a cité Fontainebleau une fois, le seul témoin à peu près fiable, Feuillet, qui écrit à sa femme. Les autres parlent de Compiègne.
Alors Compiègne, ce serait dans la mouvance, une soirée de l'empereur et de l'impératrice.
Dans les fameuses séries où les gens passaient une nuit ou 15 jours invités à Compiègne et parfois le soir s'ennuyaient de manière assez ferme.
Alors, qui y avait alors, si dans la légende, qui était là pour écouter ce que dictait Mérimée, si tant est que ça
dans la seule version où Mérimée apparaît vraiment, celle de Madame de Metternich, il y a d'autres personnages, mais ça n'arrange pas les choses, parce que Madame de Metternich dit qu'il y avait Alexandre Dumas fils. Et elle ajoute cette phrase assez étonnante, Metternich aurait gagné le concours, et Alexandre Dumas fils lui aurait dit « Prince, allez-vous vous présenter à l'Académie pour nous apprendre l'orthographe ?» Dumas fils ayant fait beaucoup de fautes. Or, c'est impossible. Dumas fils rentre à l'Académie en 1878. Donc, rien ne colle nulle part. Aucun des témoignages ne nous permet de dire que la dictée est de Mérimée et que Mérimée, un jour, l'a lue devant la cour.
Néanmoins, on l'appelle comme cela, alors elle est passée dans l'histoire comme cela.
Elle est... peut-être pas complètement passé dans l'histoire. Il y a eu à la conciergerie, pour le 150e anniversaire de Mérimée, de sa naissance, il y a eu une exposition. Il y avait un document sur la dictée qui a été retiré avant l'inauguration.
Donc les doutes sont plus forts que les affirmations.
Oui, les doutes sont très forts. Je ne suis pas le seul à les avancer. Les mémoires de Madame de Metternich viennent de ressortir aux éditions Talendier, préfacées et annotées par Georges Poisson. Poisson a les mêmes réactions que moi.
Néanmoins, j'aimerais quand même savoir qui a gagné cette dictée. Alors, qui a fait des fautes et qui n'en a pas fait ? Parce que c'est tout de même important. Alors, Metternich en a fait très peu.
Metternich en aurait fait, à ma connaissance...
Qui était de langue allemande, je suppose.
Il était de langue allemande, c'était l'ambassadeur d'Autriche à Paris. Il n'aurait fait que 3 fautes.
Merveilleux. Ça,
c'est la version de sa femme, c'est la seule qui donne des chiffres. Octave Feuillet, que nous retrouvons, qui cette fois-ci est passé, on ne sait pas où, mais qui n'est plus à Fontainebleau, on aurait fait 19.
19 fautes ?
19. Le fils Dumas en aurait fait 24. L'impératrice, 62 ou 75 sont les sources.
Mais elle était de langue espagnole peut-être ?
Oui.
Enfin,
et
encore que.
Je vais quand même vous citer une phrase. C'est celle de Maurice Parturier, qui a classé les 5000 lettres, qui a beaucoup travaillé sur la dictée, arrive à cette conclusion que tout ça est impossible, parce que faire autant de fautes dans un texte qui ne compte que 90 mots, c'est quand même impossible.
Alors maintenant, je vous propose, d'une part, si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur Prosper Mérimée, d'écouter notre émission avec Pierre Pélissier, notre autre émission sur Prosper Mérimée. D'autre part, de vous procurer le livre de Pierre Pélissier, qui est paru aux éditions Talendier. Et maintenant, à vos feuilles et à vos stylos, et le comédien Fernand Guillot va vous lire cette fameuse dictée. Et à la fin, soyez honnête, vérifiez sur le site de Canal Académie combien de fautes vous aurez faites, et peut-être n'en aurez-vous fait aucune. C'est peu probable, Pierre Pélissier a l'air d'en douter. Elle est difficile.
Je doute que quelqu'un puisse faire cette dictée sans faute.
On vous laisse faire cette dictée, vous écouterez 2 lectures. Une première lecture à un rythme normal et, après quelques notes de musique, une seconde lecture à un rythme plus lent pour vous permettre d'écrire.
Quel que soit et quelque exigu qui ait pu paraître à côté de la somme due, les arts qui étaient censés avoir donné à main et main fusilier subtil la Douairière et le Marguillier, bien que lui ou elle soit censé les avoir refusés et s'en soit repenti, va-t-on les réclamer pour telle ou telle bruge jolie, par qui tu les diras redemander, quoi qu'il ne lui sied pas de dire qu'elle se les ait laissées arracher par l'adresse des dits fusiliers et qu'on les leur aurait suppléés dans toute autre circonstance ou pour des motifs de toutes sortes. Il était infâme d'en vouloir pour cela à ces fusiliers jumeaux et mal bâtis et de leur infliger une raclée alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leur corps religionnaire. Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la douairière, par un contresens exorbitant, s'est laissée entraîner à prendre un râteau et qu'elle s'est crue obligée de frapper l'exigeant Marguillier sur son omoplate vieillie. Deux alvéoles furent brisées. Une dysenterie se déclara, suivie d'une phtisie. Par saint Hippolyte, quelle hémorragie ! S'écria le bélitre. À cet événement, saisissant son goupillon, ridicule excédent de bagage, il l'a poursuivi dans l'église tout entière. Quel que soit et quelque exigu qu'ait pu paraître à côté de la somme due, les arts qu'étaient censés avoir donné à main et main fusiliers subtils, à main et main fusiliers subtils, la douairière et le marguillier bien que lui ou elle soit censé les avoir refusés et s'en soit repenti, va-t-on les réclamer pour telle ou telle brujolie, pour telle ou telle brujolie, par qui tu les diras redemander, pour qui tu les diras redemander, quoi qu'il ne lui sied pas de dire, de dire qu'elle se l'est laissée arracher par l'adresse des dix fusiliers et qu'on les leur aurait suppléé et qu'on les leur aurait suppléé dans toute autre circonstance, ou pour des motifs de toutes sortes. Il était infâme d'en vouloir pour cela à ses fusiliers jumeaux et mal bâtis. Et de leur infliger une raclée, alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leurs coreligionnaires. Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la douairière, par un contresens exorbitant, s'est laissé entraîner à prendre un râteau et qu'elle s'est crue obligée de frapper l'exigeant marguillier sur son omoplate vieillie. Deux alvéoles furent brisées. Deux alvéoles furent brisées. Une dysenterie se déclara, suivie d'une phtisie. Par Saint-Hippolyte, quelle hémorragie ! S'écria le bélitre. À cet événement, saisissant son goupillon, ridicule excédent de bagages, il la poursuivit dans l'église tout entière. Il la poursuivit dans l'église tout entière. Thank you.